Bonjour, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou à la réécoute sur franceinter.fr. C'est après avoir vu le film Moonlight de Barry Jenkins en lice pour les Oscars et qui raconte l'homophobie subie par un jeune noir dans un quartier difficile de Miami que j'ai eu envie de consacrer une émission à l'homophobie en 2017 en France. Alors si l'homosexualité s'est largement banalisée dans notre pays, les actes et les paroles homophobes persistent.
Pour moi, c'est une maladie, ça. C'est psychologiquement, c'est une maladie. Ces gens-là doivent être enfermés à perpétuité.
L'homophobie, c'est l'attitude hostile envers des individus supposés avoir des pratiques sexuelles avec des personnes du même sexe. Nous verrons exactement ce que recouvre l'homophobie, comment la vit-on, notamment chez les jeunes gays et lesbiennes rejetés par leur famille, comment réparer leurs souffrances, comment lutter efficacement et durablement contre l'homophobie. Nos invités nous apporteront quelques réponses. N'hésitez pas à témoigner et poser vos questions par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard d'Inter 01 45 24 7000. Eliès et Colline attendent vos coups de fil. Et puis dans quelques instants, vous retrouverez la chronique de Thibaut de Saint-Maurice, la petite philo de la pub et des marques.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Ah bonjour, bravo. Hein. J'ai pas encore regardé, mais il y a plein de monde. Hein. Vous êtes content, hein? Il n'est pas content?
Si, mais il boude parce qu'il y a des tas de journalistes qui devaient venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas? C'est vraiment des gros PD, c'est incroyable.
Des gros PD, c'est-à-dire?
Bah, des PD, quoi.
Comme mon ami et moi, par exemple.
Un extrait du goût des autres d'Agnès Jaoui. Et ce matin, pour évoquer la question de l'homophobie en France en 2017, j'ai convoqué une armée de choc. Bonjour Virginie Combe.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de SOS Homophobie. Bonjour Serge Eiffèze.
Bonjour.
Psychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Dernier ouvrage paru, Je rêvais d'un autre monde, l'adolescence sous l'emprise de Daesh, chez Stock. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour.
Docteur Baptiste Beaulieu, vous êtes médecin à Toulouse et l'auteur du blog très suivi, Alors voilà. Bonjour Olivier Mine.
Bonjour Ali.
Animateur emblématique de Fort Boyard et d'un tout nouveau jeu qui arrive sur France 2, Tout le monde a son mot à dire, et l'auteur d'une biographie consacrée à l'acteur Louis Jourdan, et vous êtes l'un des parrains de l'association Le Refuge qui accueille des jeunes homosexuels rejetés par leur famille. On écoutera d'ailleurs tout à l'heure le reportage de Thomas Chauvineau qui s'est rendu au Refuge. Alors Virginie Combe, c'est quoi l'homophobie? C'est la peur ou c'est la haine des homosexuels?
C'est plutôt la discrimination. Donc dedans vous allez avoir le rejet. Mais ça peut également être les moqueries, comme on le voyait dans l'extrait que vous venez de passer. Ces petites blagues qu'on va faire en utilisant des mots sans forcément mesurer l'impact qu'ils ont et ce qu'ils veulent dire réellement. Parce que rappelons-le, quand même, PD, c'est assimiler l'homosexualité et la pédophilie. Donc c'est quand même quelque chose d'assez violent pour la personne qui va le recevoir. Ça va être également, malheureusement, des insultes et des agressions physiques. Et tout ça pour une sexualité présumé ou avéré, puisqu'en général, vous ne connaissez pas les mœurs des gens que vous côtoyez.
Alors en 2015, les actes homophobes ont chuté avec un pic hein, au moment des débats autour du mariage pour tous en 2013. Mais dans votre rapport annuel, vous dénoncez un retour à l'homophobie ordinaire, c'est-à-dire?
Alors, en effet, on avait eu un pic important de témoignages d'actes homophobes autour des débats mariage pour tous. C'est pas vraiment une chute. Ce qu'on observe actuellement, c'est plutôt un retour vers les nombres de témoignages qu'on avait avant ces deux ans autour du mariage pour tous, qui ont été une espèce de défouloir de la parole haineuse en général, pas juste homophobe. Ce qu'on appelle, nous, l'homophobie ordinaire, c'est celle qui va être dans le quotidien, qui va être banalisée. Mais elle n'est pas moins dangereuse, au contraire, puisqu'elle va être dans l'intimité des gens. Ça va être la famille, le milieu scolaire, le travail. Donc ça va être au plus proche de la victime.
Et vous estimez que l'homophobie s'est durablement ancrée dans la société française?
Oui. On sent, voilà, comme dans l'extrait, que les mots sont utilisés sans forcément mesurer la portée qu'ils ont. Et que ça va être en permanence... En sous couvert d'humour, des termes assez forts, des actes assez violents, sans forcément être de la violence physique, mais dont vont être victimes beaucoup trop de personnes.
Serge Eiffèze, dans votre cabinet de psychiatre et de psychanalyste, vous recevez des homosexuels qui subissent l'homophobie. Vous estimez que l'on vit dans une homophobie ambiante?
Ah, on vit dans une homophobie ambiante, surtout quand on est un adolescent et surtout quand on est en milieu scolaire. C'est-à-dire que être un jeune homme ou une jeune fille qui a des qui reconnaît, qui commence à reconnaître en lui des goûts pour des personnes du même sexe, c'est une catastrophe sur le plan de son essor psychique, de son évolution par rapport à ce qui va lui être renvoyé par les autres. On lui renvoie en permanence. Je dirais surtout pour les garçons, mais aussi pour les filles, l'image qu'il est monstrueux, l'image que c'est la lie de l'humanité, l'image qu'il n'a aucune raison de pouvoir figurer parmi les autres. On le rejette en permanence. C'est-à-dire qu'ils vivent dans les insultes et les crachats. Or, au moment où on construit son identité et l'estime de soi-même et le fait qu'on va s'aimer soi-même, aimer qui on est et aimer les autres, eh bien, c'est quelque chose qui fait un barrage absolument terrible. Et je dirais que, à la limite, paradoxalement, plus il y a de visibilité autour de l'homosexualité, plus justement les jeunes gays vont vivre cette histoire comme un échec personnel. C'est-à-dire, ils vont se dire, il y en a d'autres qui arrivent, et puis moi, qu'est-ce qui fait que je vis ça au quotidien? Et donc, ils intériorisent ces mouvements de haine de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle l'homophobie intériorisée, c'est-à-dire qu'ils finissent par se haïr eux-mêmes. Et lorsque, par la suite, eh bien, ils arrivent, heureusement, à partir de l'âge de 17-18 ans, à vivre ouvertement, à avoir un compagnon, une compagne, à pouvoir affirmer cette identité devant les autres, ils oublient finalement cette construction-là. Et moi, je les vois souvent beaucoup plus tard, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, eh bien, il faut toujours revenir sur ces failles de l'adolescence parce qu'elles sont toujours là et toujours présentes.
Olivier Mine, vous ressentez une homophobie ambiante ordinaire qui persisterait en France ?
Ah, c'est certain qu'elle est toujours présente et que depuis les débats autour du mariage pour tous, elles sont revenues au galop et même dans les grandes villes étrangement et de manière pernicieuse. Quand j'ai appris pendant tous ces débats que des médecins à Paris demandaient à des jeunes gens qui venaient les voir, entre autres quand il s'agissait d'un dermatologue, parce qu'ils avaient un érythème ou une simple chose qui semblait être banale, s'ils étaient gays ou s'ils ne l'étaient pas, et à la réponse « oui, je le suis », il y avait prescription immédiate d'un test HIV et de tests de toutes les maladies possibles et imaginables, sexuellement transmissibles, comme si la personne de facto était touchée du doigt par l'ensemble de ses affections, et il y a matière quand même à s'interroger. Et puis il y a un truc encore plus vicieux, qui est l'homophobie politique. Et je sais de quoi je parle parce que je vis en partie aux États-Unis et que Trump et son administration distillent cette chose-là de manière... Alors, de moins en moins subtil, cela dit. Mais malgré tout, elle est de plus en plus présente. Et chez nous, c'est aussi le cas. Et chez nous, elle est beaucoup plus subtile, malheureusement. Parce qu'elle est donc plus difficilement démasquable. Et il s'agit aussi, à un moment donné, de parler de ça aussi. Parce qu'il n'y a pas que celle de l'homophobie qui nous environne, nous, au quotidien. Il y a celle aussi de ceux qui, malheureusement, parce que les autorités morales se sont délitées au fur et à mesure du temps, de ces images qui représentent donc les nouvelles autorités morales, les autorités politiques, alors qu'elles ne le sont pas forcément morales. Et il s'agirait peut-être aussi de leur mettre leur nez dedans, comme on dit.
Docteur Baptiste Beaulieu, en tant que médecin généraliste, vous êtes très investi dans la lutte contre l'homophobie. Cela vous a valu des menaces de mort et des insultes. On y reviendra tout à l'heure. Aux urgences ou dans les cabinets de ville, les médecins soignent des homosexuels qui se font tabasser en raison de leur homosexualité. Et vous en recevez, vous, notamment ?
Bien sûr. Et puis, c'est aussi l'occasion de rebondir. Vous parliez tout à l'heure de l'éducation et notamment de ce qui se passe dans les cours d'école et de collège. Est-ce que vous savez quelle est l'insulte la plus proférée dans les collèges et combien de fois... un jeune collégien va entendre cette insulte-là au cours de la journée. L'insulte la plus proférée, c'est le mot « PD ». Il va l'entendre en moyenne 15 fois par jour. Donc, quand on imagine qu'il y a environ 12 millions d'étudiants, de lycéens, de collégiens, tout ça, et que donc, parmi ces 12 millions de jeunes collégiens, on peut compter environ 700 à 730 000 jeunes qui seront concernés par... l'appartenance à une orientation sexuelle minorisée, ça pose quand même question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là qui sont 700 000 et qui vont entendre toute leur scolarité des insultes, des injures qui les rabaissent dans leur estime d'eux-mêmes et qui, dans la construction narcissique, est terrifiante, quoi. Vraiment, ça, c'est impossible. Enfin, je me tourne vers Monsieur Effez, mais c'est très difficile de grandir avec, quand on entend 15 fois le mot pédé dans la journée. Vous remplacez le mot pédé par nègre ou youpin ou tout terme injurieux servant à discriminer une population minorisée, et vous verrez à quel point ça peut être violent pour la construction identitaire.
Et ce qui est encore plus plus complexe, c'est que être traité de nègre ou d'youpin, on peut toujours se tourner vers son groupe d'appartenance, vers sa famille, vers ses parents, qui vont vous consoler, qui vont consolider l'estime de vous-même et votre appartenance communautaire. Mais être traité de PD, on peut se tourner vers personne, parce que évidemment, par rapport aux parents, c'est beaucoup plus compliqué de trouver ce soutien.
Virginie Combe.
Juste si je peux rebondir, un autre constat assez alarmant de notre rapport annuel, c'est que l'âge moyen des victimes dans le milieu scolaire a encore diminué. La part de mineurs victimes d'homophobie à l'école a encore augmenté. Donc les jeunes sont encore plus jeunes dans leur construction au moment où ils vont se prendre toute cette violence et ça va être du coup très compliqué pour eux à gérer.
Si vous subissez l'homophobie dans votre vie quotidienne, en famille, au travail, vous pouvez témoigner au 01 45 24 7000, grand bien vous fasse à radiofrance.com. Il est temps de retrouver la petite philo de la pub et des marques de notre prof maison Thibaut de Saint-Maurice.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou et penser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pulpe, elle reste en bas.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Alors ce matin, dans votre petite philo, vous vous intéressez à une campagne de lutte contre l'homophobie au ton décalé.
Je me souviens encore de dire à ma DRH, ni PD, ni homo, ni gay. Je ne pouvais pas les supporter. Donc du coup, j'ai vu le médecin du travail. Et là, il m'a conseillé homophobiol. Au bout d'un mois, incroyable. Plus aucune allusion homophobe, rien, j'étais complètement guéri.
Homophobiol est le premier traitement contre l'homophobie. Homophobiol contre l'homophobie, on n'est jamais trop aidé.
Voilà, donc effectivement, extrait donc d'une vraie fausse pub. Alors, pourquoi vraie fausse pub ? Parce que c'est donc pour le médicament homophobiol. Elle est vraie parce que c'est bien un spot qui a été commandé donc en 2015 par l'association Aide. Et elle est fausse, évidemment, parce que malheureusement, l'homophobiol n'existe pas. On n'a pas encore trouvé cette petite pilule miracle qui serait capable de soigner les préjugés. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que au-delà de l'homophobie, il y aurait un grand marché. Il y aurait le préjugé qui nous presque, parce que le préjugé, pardon, nous touche presque tous, hein, avec des cas sévères, on en a parlé, comme le racisme, la xénophobie ou le sexisme, et puis des cas plus légers aussi, hein, comme les préventions à l'égard des motards, ou bien des surfeurs sur les pistes de ski, des punks à chiens, des mamies à chats, des profs qui mettent des cravates pour aller faire cours, des noms à particules, ou des buveurs de thé comme vous, Alice.
Ce matin, c'est pas du thé, c'est du tilleul et de la menthe. Mais rappelez-nous, Thibaut, d'où viennent nos préjugés ?
Alors, un préjugé, c'est une généralisation abusive qui est construite et alimentée par un imaginaire défaillant. Le préjugé est une idée reçue, alors on la reçoit de son éducation, de son groupe social ou de son époque, et c'est une forme de savoir malade. En fait, il donne l'impression de savoir, et comme il fait croire que l'on sait à quoi s'en tenir, eh bien, il empêche le déploiement d'une interrogation réflexive. Le fond de ces préjugés, ce n'est pas le savoir, mais l'ignorance. Et l'ignorance, eh ben, on le sait depuis qu'on est enfant, hein, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, et comment voulez-vous lutter contre la peur ? Comme le fait remarquer le philosophe Pascal, la raison a beau crier, elle ne met pas le prix aux choses. Ça veut dire que la peur est irrationnelle et qu'on ne peut pas lutter contre la peur en convoquant la raison.
En revanche, contre la peur, on peut rassurer.
Mais oui, un enfant qui a peur du noir ou des monstres, hein, qui seraient au fond de son lit, dit surtout qu'il a besoin d'être rassuré. Alors l'homophobe, bien sûr, n'est plus un enfant et ses préjugés sont bien plus violents, mais au fond, il a peut-être aussi besoin d'être rassuré avant d'être jugé. Et toute l'habileté et finalement l'humour de cette campagne, c'est de renverser le centre de gravité de la lutte contre l'homophobie. Ce ne sont pas les homosexuels qui souffrent et qui sont des victimes, mais ce sont bien les homophobes. Ce sont eux qu'il faut accompagner et soigner. Le grand sociologue Erwin Goffman a mis en place le concept de stigmate pour désigner les marques sociales d'une exclusion sociale ou d'une réprobation morale au sein d'un groupe, à propos donc d'une composante de l'identité d'un de ses membres. Ici, on assiste à une double inversion de ce stigmate. La normalité est du côté de la tolérance, mais le pathologique, lui, il est du côté de l'homophobie. Première inversion. Deuxième inversion, celle de l'insulte, hein, on vient d'en parler, puisque la vraie fausse pub se termine aussi sur le rappel que, je cite, « contre l'homophobie, on n'est jamais trop aidé ».
Alors Thibaut, l'humour, c'est une bonne façon de lutter contre l'homophobie ?
Alors on le sait depuis l'Antiquité, hein, la comédie corrige les mœurs, le rire désamorce la peur, là où l'indignation morale ou la discussion raisonnée serait bien plus laborieuse. Le rire introduit aussi immédiatement une distance, hein, par rapport à soi, et cette distance, elle permet ensuite de décoller plus facilement les préjugés qui nous collent à l'esprit. Mais le rire seul, il ne suffit pas. Il ne suffit pas à faire progresser l'ensemble de la société, parce que les préjugés les plus violents et les plus enracinés ont fini par structurer tout le réel social et politique. Le rire, c'est une sorte d'amorce, une amorce nécessaire mais non suffisante. Au-delà des campagnes de communication, il faut le travail de tous les jours, d'associations, pour transformer les institutions et pour transformer la société. En fait, pour modifier l'environnement réel dans lequel la peur avait pu s'installer et avait pu donner naissance à ses préjugés. Bref, le combat continue, voilà, il faut sans cesse passer du rire aux armes.
Virginie Combe, vous utilisez l'humour dans vos campagnes dans SOS Homophobie ?
C'est un des vecteurs qu'on utilise en effet. On utilise l'humour quand on va viser du grand public. On a eu une campagne contre l'homophobie dans le sport qui était plus sur la déconstruction des stéréotypes, qui est plus notre cheval de bataille, que ce soit auprès des enfants, des adultes, on est plus dans la déconstruction des stéréotypes en général.
La petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice, c'est tous les jeudis dans Grand Bien vous fasse, une émission préparée par Alexia Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Clara Marliot, et c'est réalisé par Jérôme Boulet. À suivre le reportage de Thomas Chauvineau.
À lire EBI sur France Inter.
Paradis recto verso.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h25, comment affronter l'homophobie en France en 2017, c'est notre thème ce matin avec le psychiatre Serge Effèze, la vice-présidente de SOS Homophobie Virginie Combe, l'animateur Olivier Mine et le docteur Baptiste Beaulieu. Bonjour Camille.
Bonjour.
D'où appelez-vous ? Nous avons quelques problèmes informatiques, donc je ne sais pas du tout d'où vous vous appelez.
J'appelle de Paris du 11e arrondissement.
Alors dites-nous tout.
Alors moi j'ai 42 ans, donc je suis institutrice, je suis aussi comédienne parce que j'écris des sketchs et je peux parler aussi de l'homophobie dans mes sketchs. Je suis mariée avec une femme qui s'appelle Lydia, que j'aime par-dessus tout depuis un an et demi. Et on est encore à 42 ans et une cinquantaine d'années pour ma compagne, confrontée à des moments à des regards malveillants, un crachat il y a un an et demi, voilà. Alors c'est pas la majorité des regards, hein, la plupart sont indifférents ou voire un petit peu complices, mais il y a encore une grande difficulté à se promener dans Paris main dans la main ou à s'embrasser librement. Et moi ça me dérange pas parce que j'assume, si on me fait une réflexion je vais rentrer dedans, enfin j'ai pas du tout peur, ma compagne non plus. Je pense à ces jeunes qui se découvrent homo et aussi aux personnes de plus de 40 ans qui depuis tout le temps confondent pudeur et peur des réaction des autres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lesbiennes d'une cinquantaine d'années, 60 ans, qui vont dire « Ah oui, mais moi, de toute façon, je suis pudique, on ne sait jamais montrer, etc. » Et elles ont intégré cette pudeur, cette invisibilité, alors qu'en fait, c'est de la peur, quoi, parce qu'elles ont été souvent confrontées à des réactions, à des remarques, voilà. Donc, moi, mon message, c'est Vous êtes toujours là?
Oui, je vous écoute avec attention, vous savez.
C'est gentil. Moi, mon message, c'est les gens qui assument, n'ont pas peur, qui des regards, des remarques. Allez-y, prenez-vous la main, embrassez-vous, soyez libres. C'est pas de la provocation, c'est juste d'être libre de ce qu'on est. Être fier de ce qu'on est et surtout de l'amour. Voilà, c'est juste de l'amour. Donc,
Docteur Beaulieu.
Je suis entièrement d'accord avec votre témoignage. Il viendrait à l'esprit de personne de reprocher à un couple hétérosexuel qui se tient la main dans la rue de promouvoir l'hétérosexualité. Je veux dire, c'est ridicule. Pourquoi est-ce qu'un couple homosexuel qui s'aime, et globalement, c'est ce qu'on cherche tous dans la vie, quelqu'un qui nous aime, avec qui on peut s'endormir le soir, pourquoi est-ce que ce couple-là, quand il se tient la main dans la rue ou qu'il s'embrasse, fait la promotion de quoi que ce soit? Rien du tout. Ils font la promotion de rien du tout. Ils s'aiment, c'est tout. Et c'est tout ce qu'on recherche tous, d'une manière ou d'une autre.
Et j'aimerais citer le courriel que nous a envoyé une auditrice. Cela fait des années que je travaille en tant que maître nageuse dans la même piscine. J'ai des rapports très amicaux avec tous mes collègues. Mais il m'est impossible de dévoiler mon homosexualité. Le milieu des maîtres nageurs est trop homophobe. Si bien que je mens au quotidien, au travail. Je me fais passer pour une hétéro. J'étais en couple depuis 14 ans et j'ai toujours parlé de mon copain. Les remarques homophobes sont permanentes. Serge Eiffèze.
Oui, ça c'est le quotidien de la plupart des personnes homosexuelles, c'est-à-dire de devoir dissimuler, de devoir cacher, de devoir falsifier, c'est-à-dire de devoir se tordre à l'intérieur d'eux-mêmes par rapport à ce qu'ils sont. Et ça, c'est par rapport à la construction de son identité, par rapport à l'estime de soi, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. L'autre terme qui me paraît important dans ce témoignage qu'on a entendu, c'est ce terme de peur. Parce que phobie, ça signifie bien la peur et qu'il y a des peurs en miroir. C'est-à-dire que les l'homophobie ordinaire, c'est une peur. Et c'est une peur de ce que l'homosexualité provoque à l'intérieur de chacun. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ne la connaît pas qu'on a peur de l'homosexualité, je dirais que c'est parce qu'on la connaît trop bien. C'est-à-dire que pour chacun, pour chaque homme, pour chaque femme, se construire comme individu sexué, comme individu hétérosexué, c'est chasser à l'intérieur de soi, c'est amputer à l'intérieur de soi d'autres capacités, d'autres modes d'être. Les garçons chassent leur féminité, on le sait bien, et on les y pousse depuis qu'ils sont petits. Les petites filles, elles doivent chasser leur masculinité pour devenir soumises et devenir soumises à un certain ordre patriarcal. Lorsque dans les stades de foot, on insulte, on traite de pédé, on traite d'enculé, etc., qu'est-ce qu'on dit? On dit que tous ces hommes-là qui sont réunis là, eh bien, ils ont passé leur vie à chasser en eux la passivité, la féminité, ce que justement... ce qui leur fait le plus peur chez l'autre, ce qui leur fait le plus peur dans la figure de l'homosexuel, celui qu'ils vont insulter.
Merci Camille de nous avoir appelé. Virginie Combes, l'homophobie touche de la même manière les gays et les lesbiennes?
Oui, et il y a ce que disait Camille, c'est-à-dire l'invisibilisation des lesbiennes, également des bi et des trans. On le voit nous aussi dans nos témoignages, il y a beaucoup moins de témoignages de femmes que d'hommes. Ça nous a poussé à faire deux fois des enquêtes sur les lesbiennes et à voir que malheureusement, elles sont tout aussi victimes que les gays. Malheureusement, elles s'invisibilisent. Et quand on s'invisibilise...
pas facile à dire, je sais.
On ne se rend moins compte qu'on est victime et on va moins prendre sa place de victime, donc témoigner et se remettre à sa bonne position.
Bonjour Thomas Chauvineau.
Salut Ali.
Grand reporter de l'émission. Alors vous vous êtes rendu à l'association Le Refuge qui accueille des jeunes homosexuels rejetés par leur famille.
Oui, tous les mercredis l'association Le Refuge organise un dîner, entre autres, hein, parce qu'ils s'occupent aussi de l'hébergement de ces jeunes homos. Mais tous les mercredis, il y a un dîner qui est organisé dans les locaux de l'association. Alors les tables de réunion deviennent une table de banquet moderne, hein, à base de sandwich et de sauce américaine. Vous savez, ce mélange ketchup-mayo, là. Autour de la table, il y a quatre animateurs et bénévoles de l'association, une vingtaine de jeunes entre 18 et 25 ans, tous donc en effet ont été chassés de l'endroit où ils vivaient parce qu'ils sont homo, et j'ai pris place autour de la table et vous allez l'entendre, c'est pas parce qu'ils vivent ce drame là qu'ils se laissent complètement aller.
Voilà mon jeune.
Je peux m'asseoir là? Vous par exemple, comment vous êtes arrivé ici?
Les entourages, les frères, la famille et tout, c'était pas possible de vivre.
Qu'est-ce qu'ils disaient?
Être comme ça, c'est être hors nature, c'est contre nature, abomination, sorcellerie.
Et là ici, qu'est-ce que vous trouvez?
Tu trouves des gens qui sont comme toi, du coup il n'y a pas de jugement entre nous. Il faut comprendre que être comme nous sommes, c'est pas un péché, c'est pas un crime, mais nous sommes comme ça.
Il y en a qui mangent, il y en a qui boivent, il y en a qui rigolent, il y en a qui discutent. C'est à la cool.
Alors dessert, crème, caramel. Il y a des gâteaux aussi si vous voulez.
Ce qui m'a menée au refuge, alors moi j'ai grandi en foyer, en famille d'accueil. Depuis que je suis toute petite, je suis pupille de l'État. de la nation. J'ai fait beaucoup de foyers, beaucoup de familles d'accueil. Et après, je suis sortie avec une fille pendant un an. Et j'ai habité chez elle à Paris. Elle vivait avec ses parents et moi, je vivais chez eux du coup. Ils pensaient que j'étais une copine comme ça, qui était un peu dans le besoin à un moment donné. Ils pensaient pas qu'on était ensemble du tout. Et du coup, le jour du nouvel an... on s'est embrassé devant ses parents, on avait un petit peu bu et ils ont giflé ma copine et ils m'ont mis dehors sur le champ. Donc ça a été très très dur, j'étais à la rue quoi. Vu que j'ai pas du tout de parents, c'était très compliqué, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont reculées, qui sont pas du tout ouvertes et je pense que c'est une question d'éducation aussi.
Et vous avez passé combien de temps chez elle ?
Moi, je suis restée 8 mois chez elle, 8 mois.
Et vous les voyez encore, ses parents ?
Non, ils ne veulent plus du tout me voir.
Ah, этот дебил, я его вообще ненавижу.
C'est quoi votre langue ?
C'est la langue russe.
Vous parlez russe ?
Oui.
Vous êtes russe, tous ?
Non.
Moi, je suis ukrainien.
Ukrainien.
Mais je ne veux pas parler, tu vas dans le microphone.
Oui, dites.
Il n'aime pas le truc.
Le micro ?
Ouais.
Ça me fait peur. Ça me fait peur.
Nous, on est arméniens, on vient d'Arménie.
D'Arménie.
C'était, il n'y a aucune loi qui t'interdit d'être homosexuel, mais en même temps, il n'y a aucune loi qui te protège. Tu ne peux pas dire ouvertement de quelqu'un que tu es homosexuel.
Tu ne peux pas le dire.
Tu peux pas le dire.
Moi, j'étais virée d'université parce que j'étais la meilleure étudiante. Mais quand on a su que je suis lesbienne, la directrice m'a dit ben, on ne peut pas parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas tout ça.
Ça le considère comme une maladie.
On dit souvent qu'il y a une homophobie en France, mais s'il y a des gays, par exemple, ils partent en Arménie, ce n'est pas possible vivre quand même une semaine, même pas une semaine.
Je travaillais dans un bar de gays qui était explosé par les fascistes parce que c'était un bar gay.
Avec une bombe.
Oui.
C'est des jeunes qui viennent de tout horizon, favorisés, milieu favorisé, défavorisés, de France, d'Europe.
L'homophobie est une valeur partagée, en fait, par beaucoup de gens.
Quel âge elle a, votre amie
Pareil. Vous avez... Moi, j'ai 20 ans et elle a 20 ans aussi. Donc. Majeures toutes les deux, sauf que bah, après on aimerait bien vivre ensemble, mais c'est compliqué de prendre un appartement. Elle fait des études de droit, moi je fais des études de tatouage, donc on n'a pas trop les moyens tout de suite quoi, de prendre notre envol ensemble.
Reportage signé Thomas Chauvineau.
Les 20 ans, c'est l'âge des possibles. Et tous vivent donc dans des appartements proposés par l'association. Ils sont 6 par appartement, filles et garçons mélangés. Le grand jeu après le repas du mercredi, c'est de récupérer ce qui reste à bouffer et pour le mettre dans le frigo des appartements. Évidemment, la sauce américaine est bien partie.
Olivier Maine, vous êtes l'un des parrains du refuge. Comment est née cette envie de défendre ces jeunes homosexuels discriminés ?
Certainement que les manifestations contre le mariage pour tous ont été l'élément le plus déclencheur. Mais cela dit, ça faisait déjà un moment que je suivais l'activité du refuge et je me suis dit à un moment donné que puisque je présentais une émission qui était majoritairement regardée par les enfants et par les préados et adolescents, il était peut-être bon que je sois à ma petite mesure, l'un des porte-voix de cette activité, de ce combat qui est mené par le refuge. Je parle de combat parce que c'est réellement le cas. Malheureusement, la situation ne va pas réellement s'arrangeant. Le refuge a besoin plus que jamais de dons parce que ces derniers temps, il y a encore eu plus de demandes que ce qui était prévu. Que le refuge, ce n'est pas uniquement donner le gîte et le couvert, mais c'est aussi aider tous ces jeunes gens à se relancer, à retrouver à travers une estime de soi la possibilité de s'inscrire dans un projet d'avenir. Donc c'est ça englobe énormément de choses. Et donc voilà, donc je me suis dit, puisque je suis regardé par des jeunes gens et des enfants qui peut-être dans leur famille ou dans leur milieu scolaire sont baignés par l'idée que l'homosexualité est une maladie, une déviance, quelque chose qu'il faut regarder par cet angle-là, autant que j'utilise également ma position pour faire œuvre d'ouverture d'esprit et voilà.
Baptiste Beaulieu, vous recevez dans votre cabinet de médecin généraliste des adolescents, des jeunes adultes rejetés, mis à la porte de leur famille et qui ont subi des violences physiques et psychologiques.
Bien sûr, parce que Pour rebondir un peu sur le reportage qu'on vient d'entendre, est-ce que les gens qui ont entendu ce reportage se rendent compte de la quantité d'homophobie, à quel point cette homophobie est civilisationnelle pour qu'un enfant qu'on a mis au monde, dont on a changé les couches, dont on a pansé les blessures quand il tombait de vélo, un enfant qu'on a aimé, pour que d'un seul coup, on soit capable de mettre toutes ses affaires dans un sac poubelle et le jeter hors de chez lui comme si tout ça n'avait jamais existé. Est-ce qu'on se rend compte de la quantité de haine qu'il faut avoir contre les homosexuels pour faire ça? Et moi, en tant que médecin, je veux dire, c'est mon rôle aussi d'accueillir ces jeunes, de leur dire qu'il y a un endroit, un cabinet médical où un médecin peut les écouter sans les juger. Et ça me donne l'occasion aussi de parler plus particulièrement de la situation des jeunes transgenres qui, en France, est terrible, terrible, et qui vivent une transphobie, des crachats, des injures, dont on n'a absolument pas idée, quoi. Pas idée du tout, quoi.
Serge Effez, quels sont les risques psychologiques encourus par ceux qui subissent l'homophobie ?
Ben, on a commencé largement à en parler, hein, bien suicide, évidemment. C'est d'intérioriser cette mauvaise image de soi, ce qu'on appelle couramment l'homophobie intériorisée. Si l'autre me considère comme étant un déchet de l'humanité, comme étant quelqu'un qui ne mérite pas de vivre, je me considère moi-même comme cela. Ça se retourne contre soi-même, surtout si on n'a pas un milieu communautaire sur lequel on peut s'étayer. Or, quand on a 10 ans, 12 ans, 14 ans, on n'a pas ce milieu communautaire. C'est par la suite qu'on peut l'avoir et on peut retrouver cette estime de soi-même. Mais ce qui me paraît important de dire, c'est que ces failles-là, elles sont là, elles sont profondes, elles restent, et que bien plus tard, parfois, à l'occasion d'une rupture sentimentale, à l'occasion d'un deuil, eh bien, ça va resurgir comme une explosion à l'intérieur de soi.
Les risques, c'est quoi? C'est les risques de suicide?
Chez les jeunes, c'est très simple. C'est 7 à 10 fois plus de tentatives de suicide chez un adolescent homosexuel que chez les autres adolescents. Et déjà, le suicide et la tentative de suicide, c'est ce qui est le plus grave pour les adolescents. C'est la tentative, c'est les causes avec les accidents de mort principales chez les adolescents.
Virginie Combes, vice-présidente de SOS Homophobie.
Oui, comme on l'a entendu, même le discours qu'on entend dans le reportage, moi, ce qui me choque à chaque fois, c'est de se rendre compte que les jeunes, ils ont intégré que c'était normal. Il y a ce jeune qui vous dit « Oui, alors je travaillais dans un bar gay, donc il y a eu une bombe. » Comme si c'était normal de bombarder un établissement parce qu'il était gay. C'est-à-dire que, même en tant que victime, il se place pas en tant que victime. Il se dit, il a intériorisé que c'était normal de le discriminer parce que il était dans un lieu qui était ouvert aux gens qui étaient hors de la norme bien pensante de l'hétérosexualité. Et comme le disait notre médecin, les premières victimes en général, ceux qui sont le plus discriminés, ce sont les trans, parce que ça va se voir entre guillemets. Ils vont non seulement avoir ce conflit dont parlait Monsieur Effez à l'intérieur d'eux-mêmes entre ce qu'ils sont, ce que leur renvoie la société, mais également ils vont, parce qu'ils vont essayer de mettre en conformité leur corps avec ce qu'ils sont, prendre de la discrimination encore plus.
Bonjour Cathy, vous appelez du Tarn, bienvenue dans l'émission.
Oui, bonjour. J'appelais pour vous faire une remarque sur le rejet ordinaire, justement, en écho à ce que vient de dire votre interlocutrice. Je faisais la remarque que dans les familles, de façon très ordinaire, on dit à ces garçons, on leur dit plus tard quand tu seras grand, et on leur dit aussi plus tard quand tu m'amèneras une copine, ou aux filles, on dit plus tard quand tu m'amèneras un petit copain. Et jamais on ouvre la porte sur l'autre solution, l'autre possibilité. Ce qui fait qu'après un jeune, quand il grandit, s'il s'aperçoit qu'il est homosexuel, ramener un copain à la maison, ça va être compliqué, quoi. Moi, je sais que personnellement, j'ai toujours dit à mes garçons, quand vous m'amènerez une copine ou un copain, mais c'est très ordinaire. J'imagine que la plupart des familles, ça se fait sans intention d'exclure.
Serge Effez.
Oui, bien sûr, mais si vous voulez, les familles font partie d'une société, ils font partie d'une société normée, et évidemment, ils sont dans le respect de cette norme et dans le fait de transmettre cette norme à leurs enfants. Mais je suis d'accord avec cette interlocutrice, si vous voulez, il s'agit aussi pour les familles, de pouvoir aménager un certain nombre d'ouvertures, un certain nombre de discussions avec les enfants sur ces questions d'identité, sur ces questions de trajectoire. Ce qui est, si vous voulez, ce qui bouscule le plus la norme autour de ces questions d'homophobie, il faut bien voir que ça a à voir toujours avec le sexisme. Hein. C'est-à-dire que ce qui n'est pas supportable, ce qui n'est pas toléré, c'est les questions de féminité et les questions de féminité des garçons. Vous parliez des trans, c'est vrai, mais les jeunes homosexuels qui sont discriminés, ce sont ceux qui sont plus féminin, c'est-à-dire ceux chez qui ça se voit, ceux qu'on va traiter de tapette en permanence, ceux qu'on va traiter de fille, etc. Parce que ceux qui bousculent la norme sociale, la norme patriarcale au plus profond de notre identité collective, c'est cette question-là. C'est le fait que les hommes doivent rester dominants et doivent adopter cette position dominante.
Baptiste Beaulieu, qu'est-ce que vous avez envie de dire à un parent qui serait tenté de mettre dehors son enfant parce qu'il est homosexuel ?
Bah, moi, je serais juste tenté de lui dire déjà, c'est merveilleux qu'on vive dans un monde où il y ait des homosexuels, des lesbiennes et des transgenres. Je veux dire, c'est la diversité humaine, elle est belle parce que nous ne sommes pas tous uniformes, quoi. Il y a des qualités à apprendre chez tout le monde, quelle que soit leur orientation sexuelle. Et j'ai envie de lui dire, accueillez-le comme une formidable chance, parce que je suis persuadé que ça en est une.
Merci beaucoup, Cathy, de nous avoir appelé du Tarn. Alors, si vous avez subi ou si l'un de vos proches est victime de paroles ou d'actes homophobes, n'hésitez pas à témoigner. 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse, à radiofrance.com. Les Neville Brothers qui interprétaient Yellow Moon.
À lire et bille, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Ces homosexuels ne doivent pas bafouer nos traditions, il n'y a pour nous qu'une façon d'agir, tous ensemble, pour que le message soit parfaitement clair. Je dis qu'il faut choper 3 ou 4 PD, les tabasser jusqu'à ce qu'ils en crèvent. Allez, venez tout le monde, trouvons des pédales et des matraques et on va leur faire comprendre, on va casser du PD.
Un extrait de la série animée South Park. Serge Eiffez, comment devient-on homophobe?
je dirais que c'est...
Et pourquoi? Vaste question.
J'ai un peu essayé d'y répondre tout à l'heure. C'est le mouvement le plus naturel, encore une fois. Parce que, prenons le cas des garçons. Les garçons, c'est, quand ils naissent, c'est des êtres universels. Ils ont des côtés masculins et féminins, bien évidemment. Des côtés où ils ont envie d'être protégés, des côtés où ils ont envie de conquérir et de découvrir le monde. Et puis, on apprend aux garçons à amputer leur côté féminin pour devenir des hommes virils et des hommes dominants. On leur apprend à pas pleurer, à pas exprimer leurs émotions, etc. À devenir supérieurs aux filles, à considérer les filles comme étant des êtres inférieurs parce qu'elles chouinent, parce qu'elles pleurnichent. Voilà, ça c'est l'éducation normale qui leur est transmise. Donc, ça veut dire qu'ils intériorisent à l'intérieur d'eux que le féminin dominé, le féminin passif, le féminin pénétré, tout ça, c'est des choses extrêmement négatives. Donc, ça ressort sous forme d'insultes, enculés, pédés, etc., qui sont, encore une fois, les insultes les plus courantes proférées par les garçons. Donc, si vous voulez, la peur du féminin à l'intérieur de soi, donc la peur du dominé, la peur du pénétré, la peur du passif, la peur du pédé, elle s'inscrit, je dirais, depuis toujours, à l'aube de la vie psychique des hommes dans la société.
Bonjour Elias, vous appelez de Lyon, bienvenue. Oui,
bonjour.
Alors vous êtes agent municipal.
Oui.
Et est-ce que vous subissez l'homophobie sur votre lieu de travail ?
Alors, comment j'ai essuyé quelques insultes bon, de la part d'adolescents, parce qu'ils n'étaient pas contents, voilà, parce que j'ai un peu grondé. Mais ça a pas, voilà, c'est pas allé vraiment plus loin, on va dire. Mais comment dire, adolescent, j'ai connu la violence homophobe comme beaucoup de personnes LGBT. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai pas envie de parler de ma sexualité au travail, c'est que je travaille avec beaucoup d'enfants. Et j'ai pas envie que je sois dérangé dans mon travail parce qu'il y aurait des parents qui aimeraient pas ça ou qu'il y aurait des soupçons. J'ai pas envie que je sois handicapé dans mon travail ou que je puisse perdre mon travail éventuellement à cause de l'homophobie. Voilà.
Témoignage d'Elias Virginie Combe. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'association SOS Homophobie. Les salariés homosexuels sont-ils plus discriminés que les autres ?
Alors, plus discriminés, je ne vais pas avoir de chiffres exacts. On sait que le travail étant dans ce qu'on appelait tout à l'heure l'homophobie de la vie quotidienne, on a quand même plus de 15% des témoignages qui sont liés au lieu de travail. C'est donc important quand même. C'est aussi un lieu où, comme le disait votre auditrice tout à l'heure, on peut préférer ne pas le dire par peur, comme le disait encore l'auditeur là. C'est une appréhension de la réaction qu'il peut y avoir et du coup, cacher une partie de qui on est à ses collègues pour éviter d'être discriminé.
Quels seraient les recours juridiques si Elias était discriminé dans son travail en tant qu'agent municipal ?
Alors, la discrimination est toujours un peu compliquée à prouver, mais à partir du moment où il y a des preuves, les prud'hommes.
Merci beaucoup, Elias, de nous avoir appelé. Alors, l'homophobie a trouvé un nouveau terrain de jeu sur les réseaux sociaux. Comment lutter contre l'homophobie sur les réseaux sociaux, Virginie Combe ? Vaste tâche. Et puis, comment rompre contre le sentiment d'impunité ?
Alors, c'est ça. C'est très compliqué. À SOS Homophobie, nous avons ce que nous appelons les biches du net. Ce sont des bénévoles qui passent des heures et des heures à regarder les tweets, les vidéos, les propos tenus sur Facebook, etc. et à essayer de faire en sorte derrière...
Et c'est efficace ?
Que ce soit modéré.
Quels sont les recours juridiques si vous détectez des propos haineux, homophobes ?
Alors, est-ce que c'est efficace ? Quand SOS Homophobie ou d'autres associations qui sont partenaires des plateformes dénoncent des propos qui sont discriminatoires et illicites au sens du droit français, en général, c'est modéré et il y a toujours la possibilité de porter plainte puisqu'en France, il y a quand même un cadre autour du propos qui est licite ou illicite.
Olivier Mine, vous avez reçu des messages malveillants sur les réseaux sociaux, notamment lors du Fort Boyard que vous avez évoqué tout à l'heure, consacré à l'association Le Refuge.
Il y en a eu quelques-uns, beaucoup moins que ce que je craignais, beaucoup moins violents aussi que ce que je pensais. Malgré tout, il y en a eu. J'ai tâché de répondre à chacun d'entre eux avec
élégance.
Oui, on a essayé avec douceur et élégance, même si
avec
souvent,
amour.
Oui, avec amour. C'est étrange que vous utilisiez ce mot-là. J'ai essayé de mettre un peu d'amour dans mes réponses parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que a dit le docteur Beaulieu entre autres, c'est que on parle beaucoup toujours le mot sexuel avec homosexuel, hétérosexuel. L'amour, il est où dans tout ça ? Donc voilà, j'ai essayé d'intégrer un peu ça aussi dans mes réponses.
Docteur Baptiste Baptiste Beaulieu, vous avez déjà subi l'homophobie sur les réseaux sociaux ?
Oui, plusieurs fois. Mon compte a été bloqué d'ailleurs ce week-end à cause de signalements faits par des groupuscules d'extrême droite. Comment dire ? Moi, je me réjouis toujours, d'une certaine manière, en me disant que ces gens-là ne seront pas et ne seront jamais à l'abri qu'un jour, je ne sais pas, quelqu'un qu'ils aiment, leur fils, leur fille, leur sœur, leur frère, leur cousin, leur cousine, viennent un jour et leur disent, voilà, ben, je suis tombé amoureux d'un garçon alors que je suis garçon, je suis tombé amoureux d'une fille alors que je suis une fille. Et ce jour-là, ces personnes qui étaient dans l'insulte, elles deviendront ce qu'elles n'étaient pas avant, c'est-à-dire des personnes concernées. Et à partir de ce jour-là, en tant que personnes concernées, elles se rendront compte à quel point l'idée qu'on insulte la personne qu'elles aiment devient insupportable.
Quel est votre sentiment face au tweet, notamment homophobe, de l'ex-Kids de France Inter, Mehdi Mekhlat, et de son double maléfique, Marcelin Deschamps, je vous en cite un, « Vive les PD, vive le sida avec Hollande », daté du 3 décembre 2013. Ces tweets de Mehdi Mekhlat ont peut-être eu une incidence dans la vie réelle, ont pu blesser des homosexuels, Serge Effèze.
Oh bah, qu'ils auraient pu blesser, mais ça, ils sont habitués. Hein. Ils n'ont pas attendu Mehdi Mekhlat pour pouvoir être blessés. Mais ce qui me paraît très intéressant dans cette affaire, c'est que justement, on voit surgir à la lumière une part d'ombre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est double et qui part de cette duplicité. C'est-à-dire qu'il a un personnage public qui est très ouvert, qui est très tolérant, qui est l'ami de tout le monde, et comme un personnage privé à l'intérieur de lui, qui est haineux, qui est raciste, qui est antisémite, qui est homophobe. Et ça, c'est au plus près, finalement, de ce que nous sommes tous. C'est-à-dire, et ce sur quoi nous luttons. C'est-à-dire que la nature humaine, malheureusement, n'est pas faite que de bons sentiments, n'est pas faite que de sentiments affectifs vis-à-vis de l'autre. On le sait. On est pétri aussi de peur, de haine, de sentiments haineux, et nous passons notre vie à essayer de les canaliser, de les civiliser. Au fond, l'humanité ne serait pas ce qu'elle est si la nature humaine n'avait pas cette duplicité. Et j'ai presque envie de remercier cet homme d'avoir mis en lumière cette duplicité profonde.
Olivier Mine.
Ce que Serge aura peut-être la réponse, mais ce qui m'est apparu très violemment, c'est que ce jeune homme, parce qu'il est jeune, dit aujourd'hui que ce double numérique
maléfique
et numérique est lui sans être lui. Et que cette duplicité que vous évoquez, Serge, ne peut pas lui être attribuée. Et en même temps, lorsqu'il sort du bois et qu'il prend l'identité pleine et entière de Mekhlat, il reprend ses tweets de Deschamps, puisque c'était son
Marcelin
son
Deschamps.
Marcelin Deschamps. Et là, pour le coup, les deux identités se réunissent. Oui. Et malgré tout, il continue de marquer une distance dans son axe de défense en disant que c'est lui sans être lui. Je trouve que on se défend dans ce cas-là à bon compte par rapport à cette duplicité que vous évoquiez.
Ah, mais ça ne retire en rien la responsabilité, ça je suis d'accord avec vous. Hein. Le fait d'être agité par tous ces sentiments inconscients, au contraire, ça le rend encore plus responsable parce que je dirais que nous tous, justement, nous faisons le travail de les canaliser, de les dominer, de les civiliser, et lui, il ne le fait pas.
Baptiste Beaulieu.
Moi, je suis un peu dubitatif par rapport à cette histoire, parce que encore le 29 janvier 2017, il traitait Caroline Fourest de sale pute sur Twitter. Donc, je veux bien qu'il ait un double maléfique qui est ancien, qui a disparu depuis longtemps, mais là, c'était le 29 janvier. Après, il y a une vraie complaisance, je trouve, par rapport à ce personnage de la part de certains médias, et qui, pour moi, s'apparente à une forme de paternalisme néocolonialiste qui me rebute vraiment.
Je vais faire un instant chiffre. Internet, c'est le principal domaine dans lequel on a des témoignages d'homophobie. C'est 40% des témoignages, donc c'est pas négligeable. Et du coup, forcément, nous, quand l'affaire a éclaté, on s'est posé des questions sur l'impact que ça pouvait avoir et aussi sur le traitement médiatique. Le président des SOS Homophobie hier me faisait part d'une analyse qu'il avait lue sur les comportements violents de la police qui reflétaient une homophobie latente dans la société. Et on peut pas s'empêcher de se dire, donc cette homophobie, elle est latente partout, elle est latente sur les réseaux sociaux, et ça reflète vraiment une société française où la gayphobie passe comme n'étant pas grave. Et donc, au-delà des témoignages que nous, on reflète, on voit qu'il y a un problème profond.
Serge Effèze, quel rôle doit jouer l'école pour prévenir et quels sont les outils concrets ?
Ah ben, l'école a un rôle...
Dès la maternelle ?
Ah oui, dès la maternelle, et je dirais bien au-delà de la question de la sexualité et de l'homosexualité, c'est toute la question du genre. Et on voit bien comment cette question du genre, elle bouscule l'école et elle crée des scissions très profondes dans la société. Je dirais que la société est quasiment divisée en deux, entre une partie tolérante qui justement et serait tout à fait d'accord pour que les enfants réfléchissent sur les identités masculines et féminines et sur les sexualités, et toute une partie beaucoup plus rétrograde à qui ça fait peur.
Baptiste Beaulieu, le rôle des médecins généralistes aussi ?
Ben, nous, on est là en pour cabinet. Accueillir. Puis moi, en tant que médecin et romancier, à travers mes bouquins et aussi en tant que médecin, moi, je demande qu'une chose, c'est que des facultés de médecine m'invitent à venir parler 1 heure, 2 heures, s'il faut, 3 heures, 5 heures, s'il faut, à parler de ces sujets-là pour pouvoir former les futurs médecins en leur disant, voilà comment est-ce qu'on peut parfois être homophobe sans le vouloir, comment est-ce qu'on peut être maladroit, essayer de déconstruire un peu toutes les idées qu'ils peuvent avoir. Parce que, juste très, très rapidement, mais quand on prépare l'examen national classant, c'est par phénomène de... Enfin, on utilise des tiroirs de mots-clés et qu'il faut absolument mettre. Par exemple, patient homosexuel, les tiroirs, c'est sida, syphilis. En gros, on apprend pendant 10 ans aux étudiants en médecine que l'homosexuel est un partouzeur sidaïque. Et c'est ça qu'on nous met dans la tête pendant 10 ans.
Serge Eiffez.
Et ce qui est très utile, vous le citiez en début d'émission, Ali, c'est évidemment le cinéma. Hein, c'est des films merveilleux comme Moonlight, ou des films comme Brokeback Mountain, ou des films comme La vie d'Adèle, qui montrent des histoires d'amour, qui montrent que l'homosexualité, c'est pas, comme on le disait, une question de sexualité, mais c'est avant tout une question d'amour. C'est aussi une troupe de chanteurs, comme les Funambules,
exactement.
Hein, qui chantent des chansons d'amour qui sont rejoints aujourd'hui par plein d'artistes, et ça vous met du baume au cœur.
Le mot de la fin, Olivier Mine, comment lutter simplement contre l'homophobie au quotidien ?
Je pense que c'est revenir à cette idée d'amour, simplement, que voilà, le plus important c'est avant tout cela, que le reste c'est du bavardage. Aimons-nous simplement. C'est déjà tellement difficile de trouver l'autre, de trouver son autre, alors après le reste, vous savez.
Que c'est beau, Olivier Mine, quel beau mot de la fin. Merci Serge Eiffez, Virginie Combe, Olivier Mine et Baptiste Beaulieu d'être venus. Demain on se demande comment les chats peuvent nous aider à mieux vivre, que vous aimiez ou pas les chats.
Je reviens sur cette
émission. N'hésitez pas témoigner à partir de 9h au 01 45 24 7000 et par courriel grand bien vous fasse @radiofrance.com. À suivre la bande originale de Nagui.